2, 3, on est bon. Bonjour les joueurs, bonjour les joueuses, je suis Fendoel et je suis avec deux personnes avec moi, donc bonjour, première personne, qui es-tu ?
Oui, je suis Thibaut de Triton Noir.
Bonjour Thibaut, et la deuxième personne c'est qui ?
Bonjour, je suis Fabrice de Triton Noir aussi.
Donc Thibaut, on t'avait déjà entendu sur Proxy Jeux. Thibaut, peut-être tu peux nous redire un petit peu qui est-ce que tu es ?
J'ai créé Triton Noir il y a à peu près 5 ans pour éditer V Commando. Et depuis, voilà, le temps a passé, on a fait le jeu se vend, on continue d'avancer, et puis donc on est en train de travailler sur le prochain jeu qui est Assassin's Creed Brotherhood of Venice, donc une licence avec Ubisoft, et voilà, c'est le nouveau projet.
Donc Fabrice, tu as rejoint l'équipe à quel moment ?
Eh bien, après avoir aidé Thibaut pendant quelques mois, voire un peu plus d'un an avant le lancement de V Commando, je me suis impliqué plus dans ce nouveau projet quasiment à temps plein là en ce moment.
Donc tu es crédité en tant que co-auteur également sur Assassin's Creed ?
Oui, je suis co-auteur, je fais un petit peu l'homme à tout faire de Triton Noir pour seconder Thibaut, et je m'occupe plus particulièrement du story design sur...
Le story design, c'est raconter des histoires, faire les aventures, c'est ça ?
C'est la structure de l'histoire en général, parce qu'il y a une histoire, on va en reparler, je pense, après. Puis tout ce qui concerne les interactions entre le gameplay et l'histoire, et la structure narrative, globalement.
Donc Thibaut, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que ce jeu Assassin's Creed, quel type de jeu, est-ce que c'est proche de V Commando, voilà un petit peu tout ça.
Ok, donc oui, c'est proche de V Commando au niveau tactique, infiltration. Par contre, il y a quand même des différences assez majeures, même dans le gameplay. Il y a évidemment beaucoup de nouveaux objets, des objets peut-être un peu plus fun, comme des parachutes par exemple, des parachutes de Léonard de Vinci. Mais parmi les différences majeures, on a vraiment un lien entre chaque mission pour faire une grande campagne, donc c'est ce dont parlait Fabrice. Et on va aussi avoir un QG dans lequel on va revenir entre chaque mission pour améliorer nos persos, améliorer le QG lui-même, son équipement, etc., etc.
Donc Assassin's Creed, tu l'as dit, c'est une licence Ubisoft. Ubisoft qui vous a, je présume, accompagné ou qui vous donne des ordres, je sais pas. Comment est-ce que ça se passe de travailler avec Ubisoft hein ?
Là on est dans le cadre d'un accord de licence assez classique, donc nous on va devoir rétrocéder une partie de royauté sur les ventes qu'on fait, mais sinon on est complètement indépendant pour la création du jeu. On s'est mis d'accord sur le fait de faire un jeu collector pour les fans, donc ça c'était le mandat de départ sur lequel on est tous d'accord. Donc sur ce qui est développement du jeu, on pourrait dire qu'ils nous accompagnent encore, on va de temps en temps les voir vu qu'on est à Montréal nous aussi. Assassin's Creed est développé à Montréal principalement, donc c'est sûr qu'on a une proximité qui est assez précieuse. Mais il y a des validations au niveau de tout ce qui est graphique, univers. Donc quand on crée des nouveaux persos, quand on crée par exemple un nouvel assassin, on va faire valider son design, on va faire valider aussi le texte que va rédiger Fabrice pour définir cet assassin. Donc ces choses-là, comme elles se rajoutent dans un univers existant, il faut que tout ça reste cohérent. Mais côté gameplay, on est vraiment libre, c'est-à-dire que à date, il n'y a pas eu une seule remarque qui nous demandait de changer quelque chose ou quoi. Voilà. Ils trouvent qu'on va dans la direction qu'ils souhaitaient, dans laquelle ils voulaient qu'on aille, donc tout va bien.
Par rapport au choix de l'univers, c'est un choix que vous avez fait ou c'est quelque chose qui était recommandé par Ubisoft ou c'était... voilà.
Mais après, V Commando, qui est un jeu dans un univers historique, avec des mécaniques d'infiltration, après avoir travaillé, Thibaut et moi... à Ubisoft Montréal, en particulier sur la licence Assassin's Creed. Donc moi, j'étais directeur créatif de Initiate, ce qui était un projet autour d'Assassin's Creed. Le pas s'est fait assez logiquement. On s'est dit que ça ferait beaucoup de sens d'adapter Assassin's Creed en jeu de plateau de haute qualité avec un gameplay qui est celui hérité, on va dire, de V Commando, avec les mêmes bases d'infiltration et historique.
Ma question, c'était plus Assassin's Creed, c'est donc une licence de jeux vidéo. Alors, je vais le dire pour les auditeurs qui ne connaissent pas, mais Assassin's Creed, c'est aussi une licence de jeux vidéo avec une espèce de trame commune. mais qui se passe à différentes époques. Est-ce que le choix de l'époque, c'est un choix que vous avez fait volontairement? Alors on sait qu'actuellement est en train de sortir un jeu Assassin's Creed, mais plutôt qui se passe dans la Grèce antique. Vous l'avez fait volontairement dans une Venise de la Renaissance, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Donc c'est un choix tout à fait assumé de revenir à l'essence de Assassin's Creed et en particulier de cette période de Renaissance italienne qui est celle qui, je dirais, plaît le plus aux fans de Assassin's Creed.
Et c'est toi qui le pense ou c'est des sondages qui ont été faits par Ubisoft?
Oui, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce que fait Ubi en termes d'analyse de ses joueurs, mais oui, il y a des analyses très poussées qui sont faites et on sait que c'est la période cœur de Assassin's Creed, ce à quoi les fans se réfèrent en règle générale, Ezio en particulier qui est un personnage très fort. Ça dispense pas d'avoir des vues sur d'autres époques plus tard si cette première marche est franchie avec succès.
D'accord, donc pas nécessairement dans ce... Ah, donc ça sera un financement par Kickstarter, ça serait pas forcément dans ce Kickstarter, mais ça pourrait être dans d'autres épisodes à venir ou des extensions, quelque chose comme ça?
Ça pourrait tout à fait être dans des extensions pour ce Kickstarter ou à venir, d'avoir des époques conjointes, on va dire. Quant à faire un changement complet d'époque, c'est-à-dire adapter par exemple l'Égypte antique ou des choses qui sont encore de développement chez Ubi, ça ferait l'objet évidemment d'un autre projet.
On peut penser également que comme c'est un univers qui est déjà connu, on va avoir aussi peut-être des références à d'autres épisodes qui existent déjà en jeu vidéo, oui.
L'histoire se déroule entre deux épisodes de la série, donc là on essaye d'avoir une trame qui permet de faire un lien entre ces deux épisodes, donc entre Brotherhood et Revelation. Il y a des personnages qu'on va retrouver, il y a des événements sur lesquels on va avoir d'autres informations par rapport à la licence.
Ça c'est super intéressant de pouvoir inclure finalement votre jeu de société dans un ensemble plus cohérent et plus global finalement.
Oui, tout à fait. C'est un effort qu'on fait avec Ubi depuis le début de rester canon, comme on dit, dans l'univers, donc d'avoir des choses qui ne sont pas des inventions tonitruantes à droite et à gauche, mais de rester dans une histoire officielle, entre guillemets, même s'il y a des éléments qu'on invente de cette histoire, on le fait toujours en partenariat avec Ubi.
Et justement, par rapport à donc, l'époque de la Renaissance, donc vous avez inventé des nouveaux personnages, donc forcément, vous êtes obligé d'avoir une espèce de cohérence historique avec l'univers. Est-ce que c'est des recherches que vous faites de votre côté? C'est des historiens que vous consultez? Ça se passe comment?
En fait, on fait effectivement beaucoup de travail de recherche pour vérifier que des personnages qu'on voudrait inclure sont toujours vivants à la date où nous on a fait notre jeu. Donc nous, c'est sûr qu'on a une date précise à laquelle se déroule cet épisode-là. Et pour remonter un petit peu à ce que tu disais avant, c'est sûr que la création des persos se fait conjointement avec Ubisoft. Donc on crée pas mal de contenu quand même dans le jeu. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de reprendre tout ce qu'on aime là dans cette licence, les personnages clés. Mais on va aussi en créer des nouveaux. Comme je disais peut-être tout à l'heure, on a 4 nouveaux assassins là pour le jeu de base. Donc ça, c'est les personnages qu'on a créés. On a fait un brief écrit. Fabrice a vraiment créé un peu la personnalité de chacun. Ensuite, on les a fait illustrer, etc., donc validés par Ubi. Et on va aussi, effectivement, avec eux, parfois, on a aussi leur apport, parce qu'ils ont chez eux des ultra-experts, on s'en doute, de la marque, donc ils connaissent. Je sais qu'à un moment, on avait rédigé un texte en disant à telle date, il se passe ça, puis qu'ils avaient corrigé en disant non, c'est pas le 12, c'est le 13 qu'il a fait ça, tu vois. Donc les mecs savent au jour près ce qu'a fait Ezio, etc. Donc on est accompagné. Là, clairement, on a un accompagnement si on a besoin. Parfois aussi, on a la recherche d'un perso, on dit, bah là, on aimerait avoir un perso qui est certains persos particuliers dont je ne peux pas trop parler, et ils vont aller nous aider en nous disant bah voilà, dans tel livre il y avait ce personnage là que vous pourriez utiliser, ou dans tel BD, ou donc en fait ils nous aident à avoir une vision encore plus élargie de la licence. Donc voilà, donc ça c'est vraiment chouette pour nous aussi.
Donc on va parler du jeu en tant que tel, donc c'est un coopératif, c'est ça, pour 1 à 4 joueurs finalement?
Oui, c'est ça. Donc on reprend les bases de V-Commando, donc on peut jouer totalement en solo et jusqu'à 4 joueurs, effectivement, c'est ça la petite différence. Il y a beaucoup d'améliorations dans le jeu. Une des améliorations, par exemple, c'est que là, on peut décider de jouer la campagne à 1, 2, 3 ou 4. Et en fait, on a un système qui s'adapte, un système de difficulté qui s'adapte au nombre de joueurs qui est très simple. Alors que, bon, pour V-Commando, on imposait un nombre de joueurs pour une mission, donc c'est moins souple. Donc là, il y a eu un gros travail. On travaille aussi avec Manuel Rozoy sur le, donc à la fois sur l'accessibilité du jeu, sur l'univers, le QG. Donc il intervient sur plusieurs aspects, mais sur le côté prise en main, on travaille fort tous les deux pour justement transformer le jeu pour le rendre le plus accessible possible.
Donc Manuel Rozoy, qui est le troisième larron dans cette histoire, justement, je me posais la question, est-ce qu'il va y avoir un petit peu de Time Story, parce que finalement on pourrait faire un parallèle entre Time Stories et Assassin's Creed, qui pour moi il y a une espèce de colonne vertébrale hors du temps et puis au temps présent et puis des retours et des allers-retours dans le temps et dans le passé. Est-ce que aussi cet aspect sera présent? Est-ce que vous pourriez retourner à l'époque actuelle?
Ah, alors attendez, parce qu'il y a plusieurs points dont tu as parlé, mais c'est sûr qu'il y a un lien. Manuel, en fait, on s'était jamais rencontré. On a travaillé dans plusieurs endroits en commun, mais jamais au même moment. Donc chez Ubisoft à Paris, au CNJ, lui a travaillé au CNJ à Boulogne. Moi, je travaillais quand j'étais étudiant pour Strategos, qui est l'association qui est devenue, si je dis pas de bêtises, le CNJ. Donc on connaissait les mêmes personnes. Et il a aussi, travaillé sur Time Stories avec les Space Cowboys. Et je connaissais aussi les Space Cowboys encore une fois quand j'étais étudiant. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui nous rapprochaient. Time Stories, c'est sûr que pour moi, c'est au minimum un clin d'œil à Assassin's Creed, parce que c'est vraiment une histoire de voyage dans le temps, comme tu dis. Nous, on rentre pas trop dans les détails de ce qui est prévu, mais c'est certain qu'il y a énormément de possibilités. Entre le présent et l'exploration d'autres époques, il y a beaucoup d'options possibles aujourd'hui, mais pour l'instant, on rentre pas trop dans le détail de tout ça.
Pour les illustrations, donc, est-ce que tu as repris les mêmes illustrateurs que ce que vous aviez déjà pris pour V Commando? Vous avez changé? Est-ce que c'est un choix imposé par Ubisoft?
On travaille avec un des deux illustrateurs de V Commando qui crée toutes les tuiles de terrain que je t'ai montré tout à l'heure. Pour info, c'est moi qui avais créé la plupart des tuiles sur V Commando, mais là je voulais vraiment travailler avec un illustrateur pour avoir quelque chose de meilleure qualité. Ensuite, par rapport à Ubisoft, en fait, on récupère une partie des images qu'ils mettent à notre disposition, comme ça se fait toujours dans ces accords-là. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'en créer le plus possible. Nous, et on s'est aussi fixé comme règle de ne pas utiliser les images les plus connues, celles qui sont vraiment vues et revues là, pour justement apporter du nouveau contenu. Donc en gros c'est ça.
Donc sinon, à la différence de V Commando, a priori ça va être un jeu avec figurines. C'est combien de figurines un jeu Assassin's Creed? C'est une bonne question. Peut-être hors stretch goal ou avec les stretch goals, bonne question.
Donc on va essayer de pas tout dévoiler maintenant avant la campagne, mais c'est un jeu avec pas mal de figurines. C'est pas notre philosophie n'est pas de faire de la figurine pour faire de la figurine, donc on s'attend pas à ce que on ait des centaines de figurines dans la boîte de base. Il va y avoir un grand nombre de figurines. Je vais pas rentrer dans le détail évidemment parce que ça va dépendre des stretch goals.
Au moins 4 joués par les personnages principaux, 4 assassins, quelques petits gardes.
Quelques petits gardes, on peut dire ça, c'est ça. On a quand même pas mal de sculptes individuels différents. On va dévoiler ça évidemment au fur et à mesure de la campagne. Et puis ça va dépendre aussi de l'interaction qu'on va avoir avec la communauté. Donc c'est clair qu'il y a aussi de la marge pour en rajouter.
Par rapport aux sculpteurs justement que vous avez employés, même question au final. Est-ce que c'était où est-ce qu'on trouve un bon sculpteur alors?
On va être clair que des bons sculpteurs de figurines de ce type-là, dans le monde, il y en a peut-être 15. Donc, ça serait mentir de dire qu'on a trouvé des nouveaux talents sous les sabots d'un cheval. Donc, on travaille avec des gens qui sont très expérimentés. C'est aussi la philosophie globale du projet. On n'a aucun débutant sur le projet, que des gens qui ont déjà travaillé au moins sur un projet de jeu de figurines livré. Tous les gens quasiment de la core team ont travaillé sur Assassin's Creed. Donc là, les sculpteurs, c'est des sculpteurs que vous avez déjà vus sur d'autres types de projets, mais qui sont au top de la sculpture 3D aujourd'hui.
Thibaut.
Mais ce qu'on peut dire sur les sculpteurs, on a vraiment on a toujours un niveau d'exigence très élevé. Nous, enfin chez Triton Noir, c'était déjà le cas avec V Commando, et là c'est la même chose. Donc tu sais peut-être qu'on partage nos locaux avec un autre éditeur québécois qui est le Scorpion Masqué.
Ah oui, on connaît un petit peu sur Proxy Jeux.
Il me semble. Hein. Donc ça, c'est depuis cet été. En fait, on habite à côté, donc ils ont trouvé des locaux, on est avec eux. Donc ça, c'est sympa. Et leur directeur artistique, Manuel Sanchez, en fait, est un ancien de la figurine. Donc lui, c'est un univers qu'il connaît bien, même si ils font pas de figurines chez le Scorpion Masqué. Pas encore, peut-être. On verra plus tard. On sait jamais. Et donc du coup, il nous aide, voilà, pour la direction artistique des figurines sur le jeu. Ce qui est vraiment chouette, parce qu'en fait, si on combine cette expertise au fait que c'est quand même un univers très riche. Avec des très beaux costumes, des chouettes poses aussi pour les personnages qui sont importantes pour les figurines. Et puis la volonté qu'on a, enfin moi en particulier, de toujours tirer la qualité au max. Ça fait qu'en fait on a vraiment une qualité de figurine que je trouve assez géniale aujourd'hui sur le jeu.
Et c'est-à-dire que Manuel, il t'aide comment ? Il te dit faut pas que ça soit dans cette position, sinon ça va se casser ou ?
Alors en fait, il nous aide. On fait les briefs. Déjà, faut toujours commencer par faire un brief pour chaque sculpteur, pour chaque illustrateur aussi. D'ailleurs, en décrivant ce qu'on veut, en donnant des références. Donc parfois c'est compliqué. Parfois il faut mettre les costumes, la position. Parfois on se prend en photo avec Manuel. On se prend en photo l'un ou l'autre dans la pose qu'on voudrait. Mais donc ensuite, il nous aide sur tous les retours qu'on fait. Donc on reçoit régulièrement des versions tous les jours. On travaille avec 7 sculpteurs en même temps, donc on reçoit beaucoup d'images chaque jour et on fait des retours écrits en disant le bras est trop court. Alors, c'est ma spécialité, les bras trop courts. Je spot ça très vite. Non, mais bon, voilà. Manu, il va aussi voir des détails, les motifs sur les vêtements. Enfin voilà. Une des difficultés et un des rôles du directeur artistique, c'est d'harmoniser le style graphique de 7 personnes différentes pour que on soit dans un univers commun en fait, et ça c'est souvent quelque chose qui marche pas très très bien, et donc nous c'est quelque chose à quoi on est sensible tous les deux, donc voilà, il apporte vraiment beaucoup pour ça.
Par rapport aux règles du jeu, est-ce que c'est quelque chose dont tu as te baser sur ton expérience de V Commando? Comment est-ce que ça va se passer, les règles du jeu, l'écriture des règles? C'est quelque chose qui est déjà en cours, ou c'est encore en retravail, ou comment est-ce que ça va se passer?
En fait, on est parti effectivement des règles de V Commando, parce que le cœur du jeu, je dirais, part de là aussi. Évidemment, on les fait évoluer. Nous, les règles, on tient tous à ce qu'on commence à les écrire. Enfin, je vais pas dire maintenant parce qu'on a déjà commencé à les écrire depuis assez longtemps. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille déjà depuis assez longtemps. Notamment aussi parce qu'on a l'intention de les partager pendant la campagne, hein, comme ça se fait souvent, la campagne Kickstarter. Mais c'est surtout pour, enfin, je te dirais que c'est surtout pour être prêt, parce qu'on sait tous d'expérience, surtout quand t'as écrit des règles, là, tu sais que c'est très long, très compliqué, qu'il faut vraiment les mettre dans les mains des joueurs, beaucoup. C'est une des erreurs que j'ai pu faire avec V Commando, c'était ça, c'est de les avoir trop tard et de pas assez laisser les gens jouer en blind test, comme on dit, c'est-à-dire sans ma présence. Donc là, c'est quelque chose qu'on fait déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je mets les règles sur la table et je m'en vais. Donc on le fait déjà aujourd'hui avec la version qu'on a, donc c'est plutôt bon signe pour un jeu qui va arriver dans quelques temps. Et on a aussi, j'en profite aussi pour glisser ça, mais donc on va avoir en fait un livret de campagne, un livret de règles, mais qui va être plus sous forme d'index, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de mettre en place un système, enfin, qui est en train de se mettre en place, d'apprentissage de règles en jouant. Donc en fait, je te montre, alors je suis désolé pour ceux qui ne peuvent pas nous voir, mais par exemple, là je prends une carte avec une armure, c'est la première fois que tu ramasses une armure dans le jeu, t'as un petit truc en bas de la carte qui te dit « lisez le point 19 », le point 19 c'est l'explication des règles des armures par exemple. T'as pas besoin de le savoir avant, ça sert à rien. Donc en fait, il y a beaucoup de choses dans le jeu comme ça, je rentre pas trop loin dans le système, on a un système qui est assez poussé. Certains nous ont dit qu'ils le trouvaient assez exceptionnel, c'est-à-dire que vraiment, comme je disais, je m'en vais et les gens apprennent à jouer au jeu tout seul en fait. Donc, et juste avec ce petit système de points, ça fonctionne déjà très bien. Donc, et ça, c'est notre volonté, venant du jeu vidéo, comment est-ce qu'on peut faire un système où les gens apprennent en jouant en fait, et sont pas obligés de se taper 20 pages de règles avant de pouvoir bouger la première figurine.
En fait, c'est un petit peu comme un tutoriel de jeu vidéo, ça serait ça, ouais.
C'est clairement l'inspiration, mais ça a été assez compliqué de trouver comment retranscrire ça avec des cartes, des pions, etc. Donc, ça a été très long, on met beaucoup d'énergie là-dessus, et beaucoup de playtests, parce que là, typiquement, c'est vraiment un truc à mettre dans les mains de gens qui connaissent pas ton jeu. Et j'espère qu'on a quelque chose qui fonctionne bien pour le jeu avec ça.
Moi, j'ai toujours de l'appréhension quand il y a ce genre de tutoriel, c'est que au final, tu te rends compte que tu fais 2-3 missions où tu vas apprendre, mais en fait, elles sont chiantes ces missions et ça te bloque, tu vois, tu te dis oh là là, pouh. Et moi ça m'est déjà arrivé de passer des tutoriels. C'est comme on recevait donc Jérémy de Proxy Jeux récemment, et lui il a inventé le jeu Zombie 15. Et dans Zombie 15, il y a, je sais plus, une dizaine ou une quinzaine de missions. Et les vraies missions, elles commencent vraiment à partir de la mission numéro 7 ou 8. Et les 6 ou 7 premières, c'est de l'apprentissage. Et il était dégoûté parce que beaucoup de gens s'arrêtaient. On avait un petit peu marre à la moitié, quoi. Tu vois, c'était assez terrible.
Alors, c'est sûr, c'est un des risques. Je pense qu'il y a plusieurs façons de contrer ça. Nous, la première, j'allais dire, c'est pas une solution, mais. Enfin, c'est pas une solution. Nous, on va inciter les gens à jouer tout seul, en fait, pour apprendre, pour faire les premières missions de tuto. Genre, il y aura à peu près 4 missions de tuto sur 20 missions au total. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que tu reçois ta boîte, bah, tu peux l'ouvrir et commencer à apprendre les règles. Et la seconde chose, qui est pour moi très importante et qui est aussi une leçon du jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo, c'est pareil. Ça pourrait être très ennuyeux. Et c'était très ennuyeux au début. Enfin, je veux dire, quelques années en arrière, il y avait des tutoriaux, c'était insupportable, quoi. Tu commençais à jouer, t'avais une pause, t'avais un pavé de texte qui apparaissait au milieu de l'écran. Je pense à Civilization, par exemple. Donc là, l'idée, c'est aussi de rendre la mission intéressante, en fait. Donc c'est très difficile parce que tu as évidemment beaucoup moins d'éléments pour jouer, mais je pense que c'est possible aussi. Donc il faut trouver le bon équilibre et il faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Mais tu peux aussi insérer. Nous, on va insérer après au compte-gouttes des nouveaux éléments de gameplay, un nouveau type de tuile de terrain, un nouvel objet sur le terrain, des choses comme ça qui sont absolument pas, qui t'empêchent pas de prendre plaisir au jeu tant que tu les as pas eus, mais qui rajoutent des petites couches de complexité, de stratégie au fil du jeu, en fait. Donc il y a aussi ça.
Et par ailleurs, un joueur expérimenté ou un groupe de joueurs expérimentés peuvent très bien lire les règles et rentrer dans la première mission, qui est celle qui est après le tutoriel. Pas d'obligation de passer le tutoriel intégralement si ça te barbe.
Si je suis si je m'y connais super bien en V Commando, finalement ça peut passer. Bon, c'était juste deux trois petites questions. Il y a d'autres jeux Assassin's Creed qui sont sortis. Est-ce que vous y avez joué ou est-ce que vous avez regardé? Non, pas plus. C'était d'autres parties prises. Il y a un jeu de Cryptozoic qui est un jeu d'affrontement, de compétition compétitif entre les différents assassins. Et sinon, avec Kings and Assassins, mais qui n'était pas avec la vraie licence, mais qui n'était pas trop mal, ouais, si je me rappelle bien.
Oui. Alors on part du principe qu'on dit jamais du mal de nos concurrents. Qu'ils soient passé, présent, futur.
C'est plus vraiment des concurrents, je pense que le jeu est plus disponible.
Celui de Cryptozoic est encore disponible. On vous renvoie vers les notations de BGG. Puis voilà.
Ouais, qui sont pas terribles pour le jeu de Cryptozoic, c'est clair.
Mais moi j'ai joué à Kings and Assassins et je trouve ça très cool. Et c'est même dommage quelque part qu'ils aient payé la licence pour le jeu. Bon, c'est clairement inspiré, enfin plus qu'inspiré, mais. Moi, j'ai bien aimé ce jeu-là, en tout cas. Mais les autres, j'y ai pas joué, donc je peux même pas avoir un avis. C'est que on les a même pas essayés. On a Arena, là, celui de Cryptozoic, mais pas testé.
On n'a pas joué au Monopoly Assassin's Creed non plus.
On t'en veut pas. Dernière question sur plus sur le financement par Kickstarter. Donc Kickstarter, parce que c'était évident qu'un jeu avec figurines, il y a besoin d'un financement au départ qui est juste colossal. Donc ça semble assez clair pour une petite maison d'édition de passer par du Kickstarter. Je vais pas te poser la question. Est-ce que c'est déjà décidé la plupart des stretch goals actuellement? Est-ce que le montant que tu vas demander d'entrée de jeu est déjà fait? Est-ce que ta page Kickstarter est déjà faite?
C'est très très avancé. Toutes les questions que tu as posées, évidemment les stretchs, évidemment. À ce stade, si on les avait pas, ce serait embêtant. Pour faire les stretchs, nous, on essaye de bien gérer les projets. C'est-à-dire que qui dit stretch dit coût de fabrication. Donc, ça sous-entend aussi qu'on a eu les prix du fabricant et qu'on sait combien ça va coûter et donc combien on peut le vendre. Donc, tout ça, évidemment, c'est en place. La page, elle est pas mal avancée. J'espère que vous la trouverez jolie. Mais on travaille vraiment pour faire quelque chose de chouette. Mais donc, voilà, tout est bien avancé. Ouais.
Avec des bons graphistes, parce que pour rappel, les pages de Kickstarter, il n'y a rien, il n'y a que du texte, c'est juste assez impressionnant.
C'est ça, texte et image, donc image.
Donc image. Bon alors, est-ce qu'il y a une date de lancement pour cette campagne Kickstarter?
Mais oui, tout à fait, donc c'est le 13 novembre, donc très bien.
En fait, je me suis toujours posé la question si quand tu t'apprêtes à lancer un jeu de figurines, est-ce que tu appelles les gens chez, par exemple, Cool Minior Note, et puis tu leur demandes s'ils lancent quelque chose dans les environs, ou ce genre de choses?
Je sais, on en a parlé avec d'autres, certains le font, certains le font pas. Moi, je pensais le faire au début, mais je pense que c'est un peu utopique, parce qu'il y a un moment où tu dis, nous, faut qu'on lance, et puis ça peut être que cette date-là, parce que t'as, généralement, si tu fais bien, enfin, si tu regardes bien les fenêtres, il n'y en a pas 50. Et donc, nous on n'avait pas d'autre option, donc si tu veux, ou alors on repoussait à mars l'année prochaine, donc ou février, donc voilà. Donc on s'est pas mis d'accord, mais je sais que ça se fait parfois.
on a une question du Pionfesseur, donc est l'un de nos chroniqueurs, qui me demandait si c'était prévu d'avoir une nouvelle version chaque année de Assassin's Creed après.
Ah, ou tous les 6 mois, peut-être, ce serait mieux. Non, de toute façon, on fait pas un jeu en un an, nous, donc c'est pas possible. L'idée aussi, c'est de pas enchaîner. Bah, de toute façon, on sait tous que je veux dire, quand tu fais des suites à un jeu, c'est important d'arriver à te renouveler. Enfin, il suffira pas de changer d'époque, donc. Nous, je pense qu'on prendra du temps à chaque fois, donc c'est impossible de donner un délai. C'est sûr qu'on aimerait enchaîner et en faire d'autres après, avec évidemment d'autres époques, mais idéalement d'autres gameplay aussi. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire en fait. Donc, aujourd'hui, par exemple, on n'explore pas du tout un système de monde ouvert. C'est sûrement quelque chose qui serait super intéressant à développer. Mais comme souvent, voilà, j'allais dire, on va y aller un défi à la fois. Là, on a déjà beaucoup de travail, beaucoup de nouveautés là.
Mais attends, comment tu veux faire un système de monde ouvert là? Je m'assois, vas-y.
Ah ben je ne sais pas exactement, mais tu pourrais tout à fait imaginer d'avoir une comme dans Gloomhaven, d'avoir une carte et puis petit à petit tu découvres des endroits, t'as des airs. On avait parlé de ça au début hein, avec Fabrice quand on commençait à défricher un peu les grandes idées. Et donc bon, ça c'est une chose qu'on a écartée, mais je pense qu'il y a des possibilités.
Merci à tous les deux. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose éventuellement par rapport à ce qu'on a dit?
Merci à toi. Et puis rendez-vous sur Kickstarter le 13 novembre.
À quelle heure hein? Tu sais ça?
Oui, ça va ouvrir à 18h de Paris.
Merci beaucoup. Donc, je mettrai des photos sur le site. Et puis, de toute façon, rendez-vous donc pour ce Kickstarter qui a l'air très intéressant.